14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, le meurtre de Gianni Versace. Le grand couturier italien a en effet été tué par balle cet après-midi devant sa maison à Miami en Floride. Jérôme Godefroy, vous êtes en ligne en direct avec nous.
Écoutez, le couturier italien qui avait 50 ans a été abattu de 2 balles dans la tête tirées à bout portant. Il était sur le perron de...
Bonjour. Andrew Cunanan rêvait de devenir célèbre. Il y est parvenu en tuant l'un des créateurs de mode les plus connus au monde, le brillant Gianni Versace. Au milieu de l'été 1997, à Miami, le célèbre couturier italien a été fauché en pleine gloire par les balles de ce tueur en série, un affabulateur, un menteur professionnel, un mythomane à la dérive et au parcours sanglant. Un assassinat tellement spectaculaire et gratuit qu'il masque encore aujourd'hui la vraie trajectoire de Andrew Cunanan. Gianni Versace n'a effectivement pas été sa seule victime. Dans sa cavale, celui-ci aura abattu 4 hommes, des meurtres qualifiés de « sauvages » par la police. C'est cette trajectoire, celle d'un homme à la dérive et qui voulait brivier, dont le but était d'atteindre Miami pour se poster devant la villa de l'homme qui devait mourir, Gianni Versace. C'est ce parcours que je vous raconte aujourd'hui avec cette question qui recèle encore bien des mystères. Pourquoi Andrew Cunanan voulait-il tuer à tout prix Gianni Versace? Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'Andrew Cunanan, l'homme qui allait abattre Gianni Versace moins de 3 mois avant le meurtre du couturier. Ce jeune Américain inconnu de la police a commencé à emprunter une route sans retour. Ce mardi 29 avril 1997, vers 13h45, 2 femmes frappent à la porte d'un vaste appartement transformé en loft dans un quartier résidentiel de Minneapolis, dans l'état du Minnesota. Elles n'ont pas de nouvelles de leur collègue, l'architecte David Matson, 33 ans. Cela fait 2 jours qu'il n'est pas venu travailler. Pas de réponse. Derrière la porte, on entend juste le chien du locataire qui se lamente. La gardienne de l'immeuble est alertée. À 16h, elle pénètre dans le loft avec son passe-partout, tombe sur le chien affamé et aperçoit tout de suite un corps enroulé dans une couverture. Le dos de la porte d'entrée semble être couvert de sang. Il y a également du sang sur le sol et des traces de pas. La police est prévenue. Le légiste constate que la victime a reçu pas moins de 27 coups de marteau portés à la tête et au torse. L'arme du crime, le marteau, est posée sur une table. La montre militaire de l'individu s'est arrêtée à 9h55. Le décès remonterait à 48 heures auparavant. Contre toute attente, le cadavre dans le tapis n'est pas celui de l'architecte David Matson, mais celui de l'un de ses meilleurs amis, Jeffrey Triol, un ancien marine qui habite Minneapolis. La police soupçonne alors l'architecte d'être le meurtrier, sans accorder beaucoup d'importance au sac à dos présent dans l'appartement, portant une étiquette au nom d'un certain Andrew Cunanan. La police recherche la voiture de l'architecte Matson, meurtrier alors présumé. Cette Jeep rouge a stationné un temps sur un parking de Chicago. Elle a été brièvement aperçue sur une autoroute au nord du pays, puis sa trace a été perdue. Le vendredi 2 mai, elle est garée devant un restaurant de Rush Lake, à 1 heure de Minneapolis. Le lendemain, samedi 3 mai, dans ce même secteur, des pêcheurs découvrent le corps d'un homme. Il a reçu 3 balles dans le dos et dans la tête, abattu par surprise. C'est l'architecte David Matson. Il était en fait l'otage du tueur. L'arme utilisée, un pistolet semi-automatique Taurus, appartenait à la première victime, l'ex-marine Jeffrey Triol. L'enquête va peu à peu s'intéresser à une relation commune aux 2 victimes, un certain Andrew Cunanan, inconnu de la police, non fiché. Ils n'ont pour seule empreinte celle de son permis de conduire. Après les morts de Jeffrey Triol et David Matson, 2 hommes qu'ils connaissent depuis longtemps et qui, comme lui, fréquentaient la communauté gay, Andrew Cunanan poursuit sa route tragique. Le 4 mai 97, après 2 jours d'absence, Marilyn Miglin rentre chez elle dans un quartier huppé de Chicago. Son mari, Lee Miglin, 72 ans, qui a fait fortune dans l'immobilier, est introuvable. La police fouille la grande maison. Le corps de Lee Miglin est caché sous un 4x4, la tête enveloppée de rubans adhésifs. Il a reçu 50 coups de sécateur au visage. Son cou a été tranché avec une scie servant à élaguer les arbres. On a roulé sur le corps avec la voiture. un corps qui ne présente pas de traces d'agression sexuelle. Il apparaît que le meurtrier a dormi dans le lit du promoteur, a utilisé la salle de bain, s'est rasé. Il a emporté près de 10 000 dollars en espèces et en pièces d'or, ainsi que des costumes de la victime. Près de la maison, la Jeep Cherokee rouge de l'architecte Matson est retrouvée. Le FBI lance alors un mandat d'arrêt contre Andrew Cunanan. En partant, il a volé une voiture du promoteur, une Lexus équipée d'un téléphone. La police va pouvoir le suivre à la trace et sans doute le coincer. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Andrew Cunanan en ce mois de mai 1997, cet oiseau de nuit désœuvré et vivant d'expédients a déjà tué 3 hommes. Il va bientôt abattre le couturier star Gianni Versace. Le 9 mai 1997, moins d'une semaine après avoir égorgé le promoteur Lee Miglin, Andrew Cunanan abandonne sa voiture dans une allée du cimetière Finns à Pennsville, dans le New Jersey, un lieu historique où sont enterrés de nombreux soldats confédérés. Cunanan sait que ce véhicule qu'il a volé à sa dernière victime est repéré, il faut donc s'en débarrasser. Dans l'allée, le meurtrier tombe sur le gardien du cimetière, William Reese, 45 ans. Le menace de son arme, le conduit au sous-sol d'un chalet de fonction. Le corps de Reese est retrouvé ici dans la soirée, baignant dans une mare de sang. Reese a été tué par la même arme utilisée pour abattre l'architecte David Matson, le gardien du cimetière, restera la seule victime qui n'avait aucun lien avec Cunanan. Un meurtre opportuniste pour voler son pick-up Chevrolet avec lequel le tueur a repris la route. 12 mai 1997, Andrew Cunanan se présente à la réception d'un hôtel bas de gamme sur le front de mer de Miami, le Normandy Plaza. Il ne reçoit personne dans sa chambre à 36 dollars. Il passe sa journée au lit et ne sort que la nuit, changeant presque chaque jour d'apparence, portant parfois des perruques. Il est inscrit sous l'un des nombreux faux noms qu'il utilise depuis des années, parmi lesquels Andrew Da Silva, Andy Cummings ou encore Matthew Demaris. La seule fois où il décline sa véritable identité et donne son empreinte, c'est chez un prêteur à gages sur gage de Miami, échangeant une pièce d'or dérobée chez le promoteur Miglin contre une liasse de dollars. Cunanan n'est pas à Miami par hasard. Il est venu à la rencontre du couturier Gianni Versace. À ses amis, il a souvent parlé de cette célébrité de la mode comme une relation. Il a effectivement croisé le couturier 7 ans plus tôt au Colossus, un club de San Francisco. Versace était en Californie pour dessiner les costumes de l'opéra de la ville. Celui-ci aurait pointé son doigt vers Cunanan en disant « On se connaît, lac de Côme, c'est ça ?» Cunanan aurait répliqué « Merci de me reconnaître. » Le souvenir de Gianni Versace ne va jamais s'effacer. Le 10 juillet, quand le créateur débarque à Miami, Cunanan l'attend. Il va désormais épier ses moindres faits et gestes. Mardi 15 juillet 1997, vers 8h30, Gianni Versace quitte la grande villa hispanique qu'il a fait restaurer à grands frais sur Ocean Drive, la Casa Casuarina, dans le quartier bourré de touristes de South Beach. La maison est reconnaissable entre mille, elle porte partout l'emblème du créateur, une tête de méduse. Versace se rend d'un pas léger jusqu'au News Café, un coffee shop à 200 mètres à peine de chez lui. Il achète des journaux qu'il feuillette négligemment. Il salue le patron. Peu après 8h45, il est de retour à la villa avec ses magazines sous le bras. Il pousse la grille de fer forgé, s'apprête à gravir les marches du perron. Il n'a pas vu la silhouette dans son dos. Deux coups de feu claquent. Gianni Versace est touché à bout portant à l'arrière du crâne. Une deuxième balle traverse sa joue gauche. Il s'effondre. L'un de ses amis, Raime Cardona, sorti de la villa, indique que le couturier était inconscient quand il l'a pris dans ses bras, Versace, et déclaré mort au Jackson Memorial Hospital de Miami à 9h21. Il a été tué par 2 projectiles de calibre 40, des cartouches Golden Saber, les mêmes que celles qui ont tué l'architecte et le gardien du cimetière. La police parle d'un homme blanc, environ 25 ans, vêtu d'un short noir, d'une chemisette grise et portant une casquette de baseball.
Andrew Cunanan savait qu'en tuant Gianni Versace, il décrocherait le gros lot. parce que Versace est célèbre dans le monde entier. Et que chaque fois que quelqu'un parlera de lui, même dans 25 ans, on dira « il a été tué par Andrew Cunanan ».
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Andrew Cunanan. Le 15 juillet 97, il a tué de sang-froid à Miami le couturier italien Gianni Versace. Il est dangereux, armé, prêt à tout, la police le traque. Le portrait de Andrew Philip Cunanan est affiché dans tout Miami. Deux visages différents pour un seul et même homme. Sur une première photo, il apparaît patibulaire et même menaçant. Sur l'autre, bien coiffé, lunettes d'intellectuel, il ressemble à un étudiant modèle. Plus de 12 services d'enquête, parmi lesquels la police de Miami et le FBI, sont sur les dents pour l'interpeller. Les policiers disposent du témoignage du compagnon de Gianni Versace, Antonio D'Amico. Quand il a entendu les coups de feu, il s'est précipité dehors et a parfaitement vu le tueur. Il le décrit en détail. Les images de vidéosurveillance montrent Andrew Cunanan emprunter une allée puis se retrouver aux abords de la 13e rue, là où se trouve un parking municipal. Des témoins affirment l'avoir vu entrer dans un pick-up Chevrolet, celui du gardien du cimetière. Ils l'ont vu se changer aux abords du véhicule. Les policiers retrouvent effectivement des affaires appartenant au meurtrier présumé. À l'intérieur du pick-up, son passeport, un chèque à son nom, la facture du prêteur sur gage où il a monnayé une pièce d'or. Les policiers savent que 48 heures avant la mort de Versace, Cunanan a essayé d'obtenir des faux papiers auprès d'un contact en Californie pour pouvoir quitter le pays. Les policiers ne savent pas si le suspect est toujours à Miami. Pourtant, le fugitif est encore bien sur place. Il ne sort quasiment que la nuit, cambriole ça et là des plaisanciers pour trouver de quoi se nourrir. À bout de force et affamé dans la péniche vide qu'il squatte, il ira même jusqu'à manger des croquettes pour chiens. 8 jours vont ainsi s'écouler jusqu'à ce qu'un gardien de la marina de Miami, Fernando Carrera, soupçonne la présence d'un rôdeur dans l'une des 2 maisons bateaux qu'il surveille. Le 23 juillet au matin, il décide d'y entrer, entend du bruit. Quand un coup de feu claque, le gardien s'enfuit, la police est prévenue. L'assaut est donné à la péniche noyée de gaz lacrymogène. À 20h, le corps de Andrew Cunanan est découvert au 2e étage. Il s'est tiré une balle dans la tête. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'Andrew Cunanan, l'homme qui a assassiné le couturier Gianni Versace et tué auparavant 4 autres hommes, était depuis longtemps engagé dans une spirale fatale. Dans les semaines qui suivent la mort de Gianni Versace, le voile se lève sur son assassin et tueur en série, Andrew Cunanan. Une jeunesse à la marge, en 1988, quand son père comptable se retrouve poursuivi pour détournement de fonds, il prend la fuite dans son pays natal, les Philippines. Cunanan adopte alors très vite le costume d'un menteur et d'un mythomane professionnel. À 19 ans, il déserte l'université, passe ses nuits dans les clubs homosexuels de San Diego, orientation que réprouve sa mère, une fervente catholique. Il se battra alors avec elle et lui déboîtera l'épaule. Le jeune homme, désargenté, voyage jusqu'à San Francisco, monnaie ses charmes dans une agence d'escorte, se prostitue occasionnellement, consomme beaucoup de drogue et d'alcool. Il n'a jamais travaillé, il préfère chasser les hommes âgés et riches, pouvant lui apporter tout le confort matériel. Cunanan est poli, intelligent, aime s'habiller avec élégance et peut briller lors des dîners. Le millionnaire Norman Blatchford, la 60aine, va longtemps le prendre sous son aile. Officiellement, le jeune homme est son décorateur personnel. Avec lui, il voyage en France et au Maroc. Il ne manque de rien, 2500 dollars de rente mensuelle, mais en veut toujours plus. Il est congédié, une rupture qui le plonge dans le dénuement. Andrew Cunanan ne va cesser de mentir sur ses origines, sa famille, ses études, se fabriquant une existence imaginaire. C'est à San Diego que le jeune homme avait rencontré Jeffrey Traill, un jeune militaire vétéran de la guerre du Golfe. En bon samaritain, Jeffrey Traill fera tout pour éloigner Cunanan de ses mauvaises fréquentations et l'empêcher de prendre de la drogue. Il sera sa première victime. La deuxième, l'architecte David Matson, avait partagé sa vie avant de prendre ses distances, considérant Cunanan comme trop imprévisible et parfois menaçant. Lorsque ses deux amis déménageront à Minneapolis, Cunanan se sentira perdu. Il prendra alors un aller simple pour aller retrouver ces deux hommes qui avaient tout fait pour l'aider et à qui il allait réserver le plus funeste des sorts. Un meurtre à coups de marteau pour le premier, une exécution par balle pour le second. Aujourd'hui, heure du crime consacrée à Andrew Cunanan, l'assassin du couturier Gianni Versace en juillet 97. 24 ans après les faits, ce meurtre spectaculaire est toujours entouré de questions. Après la découverte du corps de Cunanan dans la péniche, les officiers de police ont cherché en vain une lettre, un mot, un enregistrement dans lequel le meurtrier aurait livré ses explications. L'enquête sur sa personnalité s'est vite heurtée à des impasses. Aucun témoignage n'a, par exemple, vraiment corroboré le fait qu'il se livrait à la prostitution comme il le laissait parfois entendre. La police de Miami va passer au crible toutes les hypothèses pour expliquer la mort du couturier. Elle va examiner la piste d'un contrat de la mafia après la découverte sur le lieu du crime d'un oiseau mort, un signe laissé parfois par la pègre pour signer une exécution. Il s'avérera que l'oiseau était mort par le ricochet d'une balle qui avait touché Versace. La police va finir par pencher pour une vengeance de Cunanan contre un homme qui l'aurait rejeté ou ignoré. Après avoir réfléchi et réfléchi, je pense qu'il y avait quelque chose entre Versace et Cunanan. C'était un crime bien trop prémédité, il y avait quelque chose de personnel, dira sans autre commentaire un ex-lieutenant de police au journal Miami Herald. Marianne Squillaci, la mère de Andrew Cunanan, n'a jamais cru que son fils était l'assassin du couturier. Selon elle, le crime organisé est derrière cette tragédie. Les cendres du meurtrier de Gianni Versace reposent au cimetière Holy Cross à San Diego,